hypermarchés. Jessica s'en est souvenue, et au dernier Noël, elle a acheté un petit pot pour bébé qu'elle a donné aux gens du stand. Jessica a dû arrêter les séances de thérapie avec Madame Carr, la psychologue de Paimboeuf. Le conseil général ne voulait plus payer le taxi. La veille, au procès d'appel, Jessica a appelé son père en urgence. Elle avait besoin de voir Laetitia. Ils sont allés au cimetière de la Bernerie en pleine nuit. En guise d'indemnité, Jessica va toucher 50 000 euros pour sa sœur et 20 000 euros dans le cadre de l'affaire Patron. Jessica s'en veut de ne pas avoir réussi à sauver Laetitia, de ne pas l'avoir entendue appeler au secours la nuit de l'enlèvement. Le jour où leur père l'a suspendue dans le vide, Jessica était trop petite pour lui venir en aide. Mais là, elle était grande. Elle aurait pu. Elle pense à Laetitia tous les jours. Des choses gaies et des choses tristes. Elle a envie d'être avec elle, de lui parler. « Comment ça va? Qu'est-ce que tu deviens ?» Il lui arrive de rêver d'elle. Il fait beau, elles sont sur la plage, elles se baignent. C'est la vie d'avant. Mais aussi des cauchemars. Jessica se trouve sur un bateau avec Meillon et Monsieur Patron. Laetitia est en train de se noyer. Les deux hommes bavardent sur le pont sans réagir. Un autre cauchemar, Meillon lui fait la même chose qu'à Laetitia. Au réveil, elle se palpe. « Ouf, je suis encore là. » Jessica est sortie vivante du cercle de feu. Elle a triomphé de la fatalité et de la mort. Elle est toujours la jumelle de sa sœur, mais de ce côté-ci du monde. À midi, des centaines de fonctionnaires passent devant elle avec leurs plateaux, avant de manger les dés de concombre qu'elle a épluchés, les carottes qu'elle a râpées, les verrines qu'elle a soigneusement disposées sur le présentoir. S'ils savaient que dans cette jeune fille anodine se dissimule une héroïne de notre temps, dont la force morale peut servir de modèle dans les petits et grands malheurs de l'existence, c'est tout le réfectoire qui se mettrait à genoux. Devant des personnes comme Jessica, on n'est plus chef de ceci, professeur de cela. On est un tout petit être humain qui s'avance, son âme friable à la main. En tant qu'homme, au sens d'être humain, il est difficile d'assumer les souffrances de Laetitia. Bébé protégé par un berger allemand. Gamine ballottée à droite et à gauche, incapable de verbaliser ses traumatismes. Adolescente qui donne son unique livre et ses organes parce qu'elle ne supporte plus le mensonge autour d'elle. Jeune fille dont le buste, lardé de coups de couteau, flotte sur un étang. En tant qu'homme, au sens masculin, c'est encore pire. Si je ressens parfois de la gêne auprès de Jessica, c'est parce que je suis un homme et que les hommes, tout au long de sa vie, lui ont fait du mal. Les hommes, ce sont ceux qui règlent les disputes à coups de cutter, qui vous démonte à coups de poing, qui éjacule dans le sopalin que vous devez tenir, qui vous poignarde, vous brise le cou comme à un poulet. Pour eux, vous êtes soit un objet de plaisir, soit un souffre-douleur. Ou bien ce sont les ministres, les dirigeants, ceux qui parlent à la télé, qui savent, qui commandent, qui ont raison, qui parlent de vous, sur vous, en vous, à travers vous. À la fin, ce sont toujours les hommes qui gagnent, parce qu'ils font de vous ce qu'ils veulent. Pour la première fois, j'ai eu honte de mon genre. Je parle le français intello, un idiome trop rigide pour se glisser dans la membrane souple des réseaux sociaux, des tweets, des émoticons et des SMS. Jessica parle le français populaire, l'argot de l'Ouest. Elle dit « ça me déboussole de trop, ce tantôt pour cet après-midi ». Elle utilise l'euphémisme « quand Laetitia est partie ». Ses textos, lapidaires et jamais signés, disent « on se tient au jus. Ça me dit pour le rendez-vous, mais il me faut l'heure. » Je suis un être de parole. Elle est un être de discrétion. Elle est hiératique, je suis mobile. Pourtant, nous réussissons à nous dire les choses. Nos entretiens sont des moments heureux. Cette coprésence nous apaise. Je n'ai jamais appelé Jessica au téléphone. Je n'ai jamais su où elle habitait. Une fois, après avoir vu Jessica pour des questions de procédure, Cécile de Oliveira m'a dit « Elle t'appelle l'écrivain et elle a confiance en toi. » J'en ai éprouvé un grand soulagement. Je suis fière de connaître des femmes telles que Cécile de Oliveira et Alexandra Turca. Avocats, journalistes, des métiers sérieux, graves, pas faits pour les femmes. Saviez-vous que Jeanne Chauvin, docteur en droit, a été congédiée sous les risées lorsqu'elle s'est présentée devant la cour d'appel de Paris en 1897 ?